E recorremos para le deuxième fondement sur lequel repose la réponse à ce questionnement, à la question posée par Moïse, c'est l'accomplissement de la prière. La prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. La prière, c'est un grand acte d'adoration qui a des particularités qui attestent de la place de cet acte d'adoration auprès d'Allah. Parmi les particularités de cet acte d'adoration, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu directement d'Allah sans intermédiaire. Alors que tous les autres actes d'adoration ont été, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a reçus via l'ange de la prière. Sauf la prière, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu révéler la prière, prescrit la prière à cette communauté, il a élevé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au ciel et l'a fait atteindre un degré qu'aucune créature n'avait atteint. فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى لكن في اسد الجن وان في عند السوق ليه كذا الله سبحانه وتعالى في قاب قوسين الله سبحانه وتعالى لرجلات الجن لرجلات لا بريئه. Et tellement Allah subhanahu wa ta'ala aime cet acte d'adoration qu'au départ il l'avait prescrit 50 fois par jour. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son retour rencontra Moussa alayhi salam, vous savez, Moussa alayhi salam avait une particularité. Il avait passé beaucoup de temps avec les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël faisaient partie du peuple élu et font partie des petites créatures. Pourquoi est-ils faisaient partie? Pourquoi est-ils étaient le peuple élu? Parce qu'ils s'étaient cramponnés à la révélation. C'est pour ça qu'ils étaient le peuple élu. Et quand لما نبذوا الجدار وراء ظهورهم ils sont devenus les filles créatures, parce que quand on se détourne de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on devient une fille créature. أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ceux qui ont maigris من أهل الكتاب parmi les gens du livre, ça veut dire que c'est ceux qui ont maigris. Quant à ceux qui ont cru parmi les gens du livre, ils auront la récompense deux fois. Allah leur récompense deux fois pour avoir cru au messager d'avant et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui me croient au livre, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après sa venue, prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils seront en enfer. Et ce sont les filles créatures. Saïd, Moussa avait vécu avec ces personnes. Et pendant longtemps, c'est pour ça qu'il maîtrisait les hommes. Vous connaissez l'histoire de Moussa alayhi salam avec parmi Israël. Que toi ne dis pas qu'il n'est pas l'entendement. Allah choisit pour eux, le créateur choisit pour eux une nourriture, décide d'abandonner cette nourriture pour une autre. Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de dire une parole, ils disent une autre. Allah subhanahu wa ta'ala révèle sur eux des versets afin qu'ils sortent des ténèbres vers la lumière. Ils choisissent de croire aux versets qui s'accordent avec leur passion et d'essayer de tourner les versets qui ne s'accordent pas avec leur passion. Donc, Moussa alayhi salam connaissait l'homme. Quand le prophète a rencontré au retour, avec ses grandes prières, il a dit que pardon, retourne voir Allah. Et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous allège ses prières. Parce que je connais les hommes. Ils ne pourront pas accomplir ces grandes prières. Moi, qu'est-ce que je connais les hommes? Alors que dans la prière, c'est pour leur propre bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu. Et il a fait ce va-et-vient entre Allah et Moussa alayhi salam jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait réussi la prière à cinq prières. Et il a dit que ces prières sont au nombre des saints à accomplir quotidiennement et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala elles représentent 50 prières. Pourquoi est-il important de comprendre cela? Parce que vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé certains prières. Fawilun bil musallin. Malheur à ceux qui prient. Alladhina hum an salatihim sahoun. Tout en négligeant leur prière, qui ne dit pas comme il se doit. Parce qu'en réalité, quand tu n'effectues pas une seule prière comme il se doit auprès d'Allah, c'est au moins 10 prières que tu n'as pas effectué comme il se doit. Et c'est dangereux. Et c'est un acte d'adoration qu'Allah aime. Regardez le soin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris pour qu'on comprenne la place de cet acte d'adoration. Et regardez les conséquences de cet acte d'adoration. Quand on l'accomplit, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سيرت لا بريير مي أنت لوم إلى سيرفيتور إلى غران بيتير إلى بارير Mais est-ce que nous ressentons la présence de cette barrière entre nous et les sirfitus et les grands péchés? La réponse est non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore effectué la prière comme il se doit. Méditez que dans les textes, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Iqamatu Salah. Iqamatu Salah, c'est accomplir la prière comme il se doit. C'est accomplir la prière comme il se doit. Donc nous avons l'obligation, pas de prier, mais d'accomplir la prière comme il se doit. C'est pour ça que nous devons d'apprendre la prière. Dans un hadith authentique, quelqu'un est entré dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, ça lui. Ensuite, il est allé prier. Ensuite, il est revenu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prophète l'a dit, je suis venu prier car tu n'as pas prié. Allah, c'est un hadith qui devait faire peur. Parce que dans ce hadith, le prophète, dans ce hadith, il y a Dieu. Des personnes qui veulent en réalité dire la même chose qui revient. Mais pour traduire deux choses différentes. On dit que par là, Thumma sallama ala rasul sallam faqala irji faqalli fa innaka lam tusalli. On dit qu'il a prié. Il est venu voir le prophète, mais le prophète l'a dit retourne prier car tu n'as pas prié. Dans le même hadith, il a dit qu'il a prié. Dans le même hadith, il a dit qu'il n'a pas prié. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on peut adorer Allah, on peut prier pendant 60 ans sans avoir prié une seule fois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a été clair, retourne prier. Quand tu n'as pas prié, pourtant il a fait le mouvement. Il a fait le takbir, il a fait le sujoud. Parce que la prière qu'il a accomplie n'est pas celle, la prière qu'il a effectuée n'est pas celle que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. ne respecte pas les règles de la prière prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Les bases sur lesquelles cette prière devrait être reposée. Devrait reposer. D'où l'importance de l'apprentissage de la prière, c'est vrai. On doit apprendre à prier. Parce qu'on ne peut accomplir la prière que lorsqu'on aura appris à prier. C'est quoi la preuve? C'est que dans le hadith, lorsque le prophète a renvoyé le compagnon pour la troisième fois, vous savez ce qu'il a dit au prophète? Quand il est revenu pour la troisième fois, le prophète l'a encore dit, retourne prier. Quand tu n'as pas prié, il a dit, Ya Rasulallah, la ursinu ghayraha, fa'allim liyuni. Le prophète, je ne connais pas une prière autre que celle que j'ai effectuée. Enseigne-moi. Donc, pour accomplir la prière prescrite par Allah, enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on doit apprendre. C'est pour ça qu'il a compris, il est revenu, il a dit au prophète, enseigne-moi. Donc, on doit apprendre à prier. À effectuer la prière, comprendre les secrets. Non, que cacher cet acte d'adoration, on doit découvrir ces secrets. Les bienfaits de cet acte d'adoration. Il y a une fois, nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que nous n'avons pas compris l'adoration à la lumière des textes du Coran. Parce que nous ne méditons pas sur les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prends juste un exemple parce qu'on n'a pas le temps de tout développer. Est-ce que vous savez que celui qui a compris ce que c'est que la prière et qui est écrit la prière comme il se doit ne peut pas tomber dans la jalousie. Juste un exemple. Ne peut pas tomber dans la jalousie. Dites-moi comment. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'ablution une condition parmi les conditions de la prière. Or, l'ablution, c'est purifier des impuretés. Écoutez bien, ce n'est pas se purifier de la saleté. C'est pour ça qu'on peut prier sans sale. Mais c'est se purifier des impuretés. Or, l'ablution que nous faisons, là, quand on lave les mains, c'est pour que si jamais il y a des impuretés sur la main, qu'on nettoie d'impurité, ce n'est pas seulement pour laver la saleté. Parce que quand on est maçon, on ne peut pas tirer, on ne peut pas attendre que la main soit propre pour aller prier. Mais on doit laver la main parce que s'il y a une impurité, ça va partir, même si la saleté reste. Donc le but de la mission, c'est quoi? C'est purifier le corps. Entre la purification du corps et la purification du cœur, quelle est plus importante? Quelle est la purification la plus importante? C'est la purification du cœur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois pour attirer notre intention sur l'importance des choses plus importantes, nous recommande et rend obligatoire les choses moins importantes. Si la purification du corps qui est moins importante, qui est moins important que la purification du cœur, Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'être une condition parmi les conditions de la prière, qu'en est-il de la purification du cœur. C'est comme ça qu'on devait comprendre la mission. Il y a que quand tu es en train de laver les mains, parce que tu veux enlever l'impureté du cœur, pose-toi la question de savoir si tu as déjà purifié ton cœur des impuretés du cœur. Il y a que quand une impureté touche ton habit, tu dois purifier ton habit. Comment est-ce que tu purifies l'habit et portes un corps qui habite un cœur plein d'impureté, du chic, des maladies du cœur? Quelqu'un qui fait les ablutions sans comprendre cette réalité ne pourra pas bénéficier des mérites de la prière comme il se doit. Parce que lui-même n'a pas accompli la prière comme il se doit. Parce qu'il n'a pas compris les actes d'adoration dans sa profondeur. Il y a dit, quand tu fais les ablutions, pense à purifier ton cœur. Parce que si tu purifies ton corps, c'est avec le cœur que porte ces corps que tu deviendras. Devant Allah, ça veut dire que ce cœur aussi a besoin d'être purifié. Et après l'accouplement, on prend le bain de Al-Janaba pour se purifier. Mais on ne comprend pas l'importance de la purification du cœur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. Est-ce qu'il n'est pas établi qu'il y a dans le corps un morceau de chair qui, si il se purifie, tout le reste du corps le suivra dans la pureté, dans la purification, dans la pureté. N'est-ce pas le cœur? Alors si Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de nous purifier, avant de prier, on doit penser à la purification du cœur. Quand on prie, on entre dans la prière par quoi? Hein? Takbir est un ihram. Le takbir qui nous a interdit tout ce qui ne fait pas partie de la prière. Mais est-ce qu'on a réellement compris pourquoi c'est par ça qu'on entre dans la prière? Quand on se place en direction de la Qibla, lève les mains et dit Allahu Akbar. Allah est grand. Ya ikhwa, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que ce mammon. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tous les soucis qui peuvent nous guider dans la prière. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tous les problèmes que nous pouvons avoir et qui peuvent nous empêcher de nous concentrer dans notre prière. Quand on a compris ce que c'est que cette prière, dans sa profondeur, ce n'est que par là qu'on sera contenté dans la prière. Mais combien de musulmans ont appris la prière et l'ont compris comme ça? On comprit que toutes ces expressions que nous utilisons dans la prière constituent des enseignements et qui ont des implications. Que ça doit refléter dans notre acte d'adoration. La vérité, c'est que même parfois, quand Dieu Allah, on n'est même pas concentré dans le takbir lui-même, on dit Allahu Akbar en pensant à tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une personne qui commence la prière de cette façon pourra-t-elle être concentrée dans sa prière? Donc nous devons apprendre à prier. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des croyants, il prie comme il se doit, avec quiétude et humilité. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Certes, on réussit les croyants qui sont humbles dans leur prière, qui accomplit ses prières comme il se doit. Et que quand on prie, sans tenir compte des heures de prière auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit les prières, comment est-ce qu'on peut vouloir bénéficier des mérites promis par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui prient? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en exposant dans la réalité ce que c'est que la prière, ce qu'elle représente dans la vie du croyant, il a interrogé les compagnons en disant Ara'aytum law anna bi babi ahadikum naharan yartasilu minhu kullu wahidin minkum khamsa marratin fi yawm hal yabqa min darajihi shay? Qalu la yabqa min darajihi shay. قال فذلك مثل صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذه هي صلوات الخمس يا إخوة. لكن إذا أديت على وجهها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما علمها النبي صلى الله عليه وسلم
Le prophète vous exposait la réalité de ce que représente la prière dans la vie du croyant dit. Voyez-vous s'il y avait devant la demeure de chacun d'entre vous une rivière et qu'il se baignait dans cette rivière au moins 5 fois par jour, est-ce qu'il respirera sur cet être une seule impureté? Ils ont dit non. Ils ont dit pas. Il a dit pas avec la matière de Salawat, c'est ainsi, c'est comme ça les saints prières. Mais c'est comme ça les saints prières pour qui? Pour celui qui accomplit les saints prières comme il se doit. Et celui qui l'accomplit comme il se doit, c'est celui qui l'accomplit comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait accompli. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه هي الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. صلي كما فما فيه صلي. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime de son serviteur que lorsqu'il pose un acte d'adoration, qu'il recherche la perfection dans cet acte d'adoration. Donc comme le prophète a demandé qu'on prie comme lui, même si on sait qu'on ne peut pas atteindre le degré de perfection du prophète dans son adoration, on doit rechercher cette perfection. On doit tout faire pour atteindre cette perfection, même si on est mort, si on ne parle pas l'atteindre. C'est cette prière-là. C'est quand on aura prié comme ça que on va éteindre la diffamation dans nos communautés, la calomnie, le colportage, la consommation des biens illicites, les turpitudes, parce que cette prière viendra mettre entre nous et cette turpitude et ces grands péchés et ces grands péchés une barrière. Certes, la prière est entre l'homme. Elle est fichée, elle est turpitude, il n'a pas rien. Mais la prière qui a cette, qui produit cette, cette conséquence, c'est celle qu'Allah a légiférée, qui est celle qui a été enseignée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous devons d'apprendre la prière et c'est le résumé de ce qu'on peut dire sur la prière. Parce qu'il faut parler de la prière comme il se doit. Il faudra organiser tout un autre séminaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous va être du nombre de ceux qui comprennent ce qu'ils se doivent de faire à travers les indications. Parce que si on a réellement compris, ça veut dire qu'on doit apprendre la prière. Et c'est tout ce que j'ai voulu qu'on comprenne. Si on a vraiment compris, non, ce qu'on a dit par rapport à la prière ce soir, c'est que nous avons l'obligation d'apprendre ce que c'est que la prière. Parce que ce n'est que lorsqu'on aura appris la prière qu'on pourra l'accomplir tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. Comme a parlé le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa tubti al-zakat. Tu dois t'acquitter de la zakat. Pour celui qui remplit les conditions de la zakat. Et sachez que la zakat est une purification. C'est ce qu'indique ce mot. C'est pour ça que, à cause de l'ignorance de certaines personnes, lorsqu'ils donnent la zakat, ils sortent le zakat. Ils pensent qu'à travers cet acte, ils sont plus bienfaisants envers les pauvres que ne l'est les pauvres envers eux, alors qu'en réalité c'est le contraire. Parce que cet argent, ce pas de vie qu'ils sortent pour donner aux pauvres, cela leur permet de purifier leur. Bien, ça veut dire qu'au point qui bénéficie, c'est lui, c'est le riche. C'est que le pauvre bénéficie de la nourriture qu'il mange avec. C'est le vêtement qu'il achète avec. Mais lui, ça ne purifie pas. C'est bien. Ça ne purifie pas son âme. Alors que c'est dit le sœur, ça lui permet de purifier ses biens et même son âme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. » Vous qui avez cru, ne rendez pas vain vos sadaqat, vos aumônes. Et vous savez que la zakat est une aumône. Et c'est l'aumône obligatoire. Ne rendez pas vos aumônes vaines par ce qu'on appelle al-manni. Al-manni, c'est le fait de voir, de considérer qu'on a fait le bien à quelqu'un et de lui rappeler cela. Comme le faisaient certains premiers musulmans qui n'avaient pas encore compris la profondeur du message de l'islam. Car Allah Ta'ala, Yamununa alayka, al-aslamu, wa la tamunnu alayya, islamakum, wa la kinna Allah yamunnu alaykum, al-hadakum. L'imam dit au noble prophète à ceux qui se vantent pour s'être soumis à l'islam, pour avoir embrassé l'islam, ils se vantaient auprès du prophète. Déjà, nous avons suivi comme s'ils avaient fait un lien au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on profite, c'est pas ce que le prophète profite de nous. Quand on le suit. Donc, en réalité, on ne devrait pas se vanter au prophète pour l'avoir suivi. Mais on devrait plutôt remercier Allah, c'est montrer reconnaissant envers Allah pour nous avoir guidé vers la foi. C'est comme ça que devrait se comporter celui qui sort la zakat. S'il a compris ce que c'est que la zakat, il devrait savoir qu'en réalité, l'existence des pauvres est un bienfait d'Allah pour lui. Parce que ça lui permet de purifier ses biens. Et s'il comprend que c'est une purification, est-ce qu'il peut s'empêcher de s'acquitter de la zakat obligatoire? Non. Parce que, dans un hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Zoula Kadama al-Qiyom al-Qiyama, Hatta yus'al al-Arba, al-Umri lima abna, wa al-Shababi lima abla, wa al-Malini min lina al-Tasabahu, wa lima al-Fatha. Personne ne bougera à sa statue le jour de la résurrection. De son statut le jour de la, ou alors de sa station le jour de la résurrection, jusqu'à ce qu'il soit interrogé par rapport à quatre choses. Parmi ces quatre choses, il sera interrogé par rapport à ce bien. Où est-ce, comment est-ce qu'il les a acquis? Et comment est-ce qu'il les a dépensés? Et il ne fait aucun doute que même celui qui ne purifiera pas ses biens ne pourra pas s'en sortir. Et s'il est établi qu'on rencontrera Allah, alors on doit purifier ses biens avant la rencontre d'Allah au subhanahu wa ta'ala. Donc la zakat est un pilier de l'islam et une obligation. Et nous devons de nous acquitter de la zakat. Et ici, je vais rappeler quelque chose d'important relative à la zakat qui est souvent négligée. C'est que, pour parler de la zakat, il faut que deux conditions soient réunies au préalable. La première condition, c'est qu'on appelle Boudou Nisar. Il faut que l'argent atteigne le quota. Et le quota, c'est quoi? C'est quoi le quota de la zakat? Non? Le zakat, le mal, si on fait allusion à la zakat de l'argent, de la monnaie. C'est quoi le quota de la zakat de la monnaie? C'est... Barakallahu fikum. C'est 85 grammes d'or ou... Et c'est cette décision. C'est 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Et beaucoup de gens ont négligé le deuxième. C'est pour ça que certaines personnes qui sont considérées par la zakat ne s'acquittent pas de la zakat. Parce qu'ils ne comptent le quota à partir du quota de l'or. Alors que le quota de l'argent aussi est un quota. Et lorsque la zakat, et lorsque les biens d'une personne ont atteint l'un de ces deux quotas, la personne doit s'acquitter de la zakat. Et si ça atteint les deux quotas, le quota qu'il doit considérer, c'est le quota le plus
va, parce que c'est là qui profite aux besogneux. Et la zakat était un droit parmi les droits du besogneux. Savez,
quand on a compté le quota de la zakat récemment, en argent, ça donnait quelque chose comme 170 000. Alors que quand on compte le quota, en or, ça donne 1 million et poussière. Ou alors plus d'un million. Non, ça y est, si on ne prend pas en considération le deuxième quota, il se peut qu'on soit concerné par la zakat et qu'on ne s'agisse pas de la zakat. Alors qu'en réalité, au fond, on est concerné par la zakat. Alors, je vais dire que c'est lui qui a 170 000. Ou alors, il faut les compter si c'est le nombre de mais ça doit être dans l'un des ventes 165 000, 170 000, 180 000, en fonction de la variation des prix de l'argent. Celui qui a 170 000, ça veut dire que son argent atteint le quota. Ça, c'est la première condition. La première condition est donc remplie. Et la deuxième condition, c'est la hawalani al-hawl. Il faut que cet argent reste pendant au moins un an. Qu'est-ce que veut dire rester pendant au moins un an? Ça veut dire qu'on ne peut rien augmenter sur cet argent. Si entre-temps quelque chose s'augmente sur cet argent, le jour où l'argent va atteindre al-hawl, c'est-à-dire un an après avoir atteint le quota, on commence le jour où ça atteint le quota. Et si entre-temps ça descend en dessous du quota, le comptage reprend à zéro. Ça va reprendre le jour où ça va encore atteindre le quota. Prenons un exemple pratique. Si Faisal a 90 000 aujourd'hui, 190 000 aujourd'hui, après avoir récité le hadith comme le cher a dit, le cher lui donne 190 000 comme récompense, ça veut dire que c'est bien, on a déjà atteint le quota. Il ne faut pas aller arrêter le cher, hein. Je suis seulement les gens, je n'ai pas dit qu'il va donner 170 000, comme tu dis déjà. Hey. Si après avoir les 170 000, si le fait ça les 170 000, ça veut dire que ces biens ont déjà atteint le quota. Si tu gardes ces 170 000, ça veut dire qu'à partir du moment où il a décidé d'épargner ces 170 000, il doit commencer le comptage. Mais si quoi les 170 000, 110 000, pour donner la ration de la semaine. 50 000 pour rembourser une dette et 100 000 pour préparer la rentrée des enfants. Est-ce qu'il est considéré par la zakat? Non. Il faut que ce soit de l'argent qu'il épargne. Donc s'il décide d'épargner ses 170 000, ça veut dire que son argent a déjà atteint le quota. Et il va commencer à compter à partir du jour où il a commencé à épargner. Ou alors à partir du jour où son épargne a atteint le quota. Si entre temps, à la fin du cours, fait ça le répond encore à une question. Et papa décide de lui donner 50 000. Parce qu'il a répondu à une question. Le lendemain, du coup. Ça veut dire que, est-ce qu'il va commencer à compter? Il va commencer le comptage parce que quelque chose s'est ajouté. Non, il va continuer avec l'ancien comptage. Et le jour où ça va atteindre un an, il va sortir la zakat de ce qu'il possède. Si c'est 2 millions, il va calculer la zakat des 2 millions et sortir. Même si c'est à la veille qu'il a complété. Non, les autres 100, il avait combien? Il avait 170 000 et 50 000. Ça fait combien?
220 000. Donc, si à ces 220 000, à la veille de l'atteinte du Haou d'un an, il ajoute à ces 220 000, non, 780 000, il va sortir le lendemain, il va sortir la zakat de 1 million. Vous avez compris le contrat, il va sortir la zakat de 1 million. Et pour calculer la zakat, surtout avec la nouvelle technologie, c'est facile, il faut plus que les gens se laissent tromper. Parce que qui disait que c'est les marabouts qui calculent la zakat. Et en même temps, comme c'était les marabouts qui calculaient la zakat, c'est au marabout qu'on sortait la zakat. Ça faisait donc une bonne affaire. Les gens de la sunna ne jouent pas à ce jeu parce que c'est la religion d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prescrit la zakat et il a établi les règles de la zakat. Il a indiqué les ayants droit, ceux qui doivent recevoir cette zakat. Le marabout, l'enseignant ne peut recevoir cette zakat que s'il fait partie de ces personnes. Ce n'est pas parce qu'il est enseignant, mais c'est parce que la règle s'applique à lui. Il y a deux méthodes de calcul de la zakat, deux méthodes simples. La première méthode, c'est de diviser le montant par 40. Et le résultat qu'on essaie, c'est la zakat. Et la deuxième méthode, c'est de diviser ce montant. C'est de multiplier le montant par 0,025. Par 0,025. Et lors d'un coup, j'avais dit par 0,25. C'était une erreur et quelqu'un m'a envoyé un message pour me le rappeler, je vais voir Allah ou Khayran. Donc, voilà, de manière concise, c'est qu'on peut dire sur la zakat en référence à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons dit, nous pas être du nombre de ceux qui écoutent et comprennent ce qu'ils se doivent de faire à travers les indications. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان وتصوم رمضان شكل دواد الشيني بمواقعه في رمضان إيه نتوم أولا جمال جمواقعه في رمضان إيه نتوم déjà eu à parler sur le ramadan et nous n'allons pas nous attarder sur le ramadan parce que nous sommes au lendemain du ramadan, ce qui veut dire qu'en réalité, si les musulmans ont jeûné, on suppose qu'ils avaient appris et que c'est que le jeûne avant de jeûner. Et parmi les choses qui montrent l'importance de la recherche de la science et la compréhension des actes d'adoration, pourquoi est-ce qu'il faut comprendre ce que c'est le jeûne? Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre? Parce que si tu n'apprends pas, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que le jeûne. Beaucoup de personnes pensent que le jeûne, légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est prendre le régime, c'est faire le régime avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Parce qu'en réalité, non, la définition du jeûne de certaines personnes, c'est faire le régime avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Alors que ce n'est pas ça le jeûne. Ce n'est pas ça le jeûne. Ya ikhwa, le jeûne en réalité, c'est vivre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de se maintenir dans cette posture jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive parmi les. Là? Non, pas les jeûneurs, vous n'avez pas compris. Allah n'a pas prescrit le jeûne pour inscrire les gens parmi les jeunes. Il a prescrit le jeûne pour que les gens atteignent la piété. Donc c'est pour les inscrire dans le rang des dieux. Voilà.